Chapitre 23. Mademoiselle Hélier renseigne la presse. Mademoiselle Hélier, dont l'irritation ne demandait qu'à se manifester en une occurrence aussi désagréable à son amour-propre, fut rejointe dans la rue par la petite troupe des reporters qui n'eurent en somme qu'à la laisser parler. Elle ne leur cacha rien des événements qui venaient de bouleverser sa vie, et son indignation était si forte qu'elle ne s'aperçut nullement du plaisir malin que ces messieurs prenaient à d'aussi exceptionnelles révélations. Ni le professeur Jaloux, ni surtout le docteur Boutier, qui vient de se conduire si grossièrement à mon égard, n'ont le droit de se taire, leur dit-elle d'un trait. Et puisqu'ils ne comprennent point leur devoir ou qu'ils en ont peur, je parlerai pour eux. Sachez donc que le monsieur qui revient de chez les morts, comme ils disent, est monsieur Jacques Mondat de la Bossière, le propre frère de monsieur André Mondat de la Bossière, qui disparut d'une façon si singulière il y a 5 ans, abandonnant ses enfants, le château de la Roseraie, son appartement à Paris et l'exploitation de sa manufacture de manchons et hérons près de la forêt de Sénart. La justice, vous devez vous en souvenir, essaya en vain de déchiffrer cette énigme. Elle y renonça. Mais il faudra bien qu'elle se remette à la tâche, car la vérité, un de ces 4 matins, finira par éclater. Monsieur André de la Bossière a été assassiné. Qu'en savez-vous ? Demandèrent aussitôt les reporters, qui ne perdaient pas une parole de Mademoiselle Hélier et prenaient d'abondantes notes avec le sourire. Mais c'est monsieur de la Boissière lui-même qui est apparu à la jeune femme du notaire de Juvisy, monsieur Saint-Firmin, pour le lui dire. Pour lui dire qu'il avait été assassiné ? Mais oui ! Oh, impossible ! Et comme à cette déclaration étrange, il y eut quelques murmures accompagnés de plaisanteries de mauvais goût, des chutes énergiques rétablirent le silence. Alors Mademoiselle Hélier put se lancer avec une rapidité de parole extravagante dans ces histoires de revenants, les seules qui pour elle fussent vraiment dignes de retenir l'intérêt de son auditoire. Elle confia d'abord au journaliste le rôle important qu'elle avait joué pendant plusieurs années au château de la Roseraie et ne leur épargna aucun des événements fantastiques qui avaient précédé et occasionné son départ. Ce furent tour à tour l'histoire de la table tournante, les propos surprenants de Madame de Saint-Firmin, ses évanouissements, le récit des apparitions du bord de l'eau qui lui avait été confirmé quelques jours auparavant par Madame Saint-Firmin elle-même, enfin les promenades du fantôme dans le château. À l'entendre, ce fantôme de l'assassiné avait été rencontré par tout le monde dans les couloirs de la Roseraie et racontait le crime dont il avait été victime à qui voulait l'entendre. Bien mieux, il avait sauvé d'une asphyxie par le gaz le plus jeune de ses enfants, avait ouvert une fenêtre et transporté son fils tout endormi dans le lit de Madame Jacques de la Bossière. Enfin, la nuit suivante, quelques instants avant l'accident, et par conséquent avant la fameuse opération pratiquée sur Monsieur Jacques de la Bossière, le fantôme d'André était encore apparu au petit François, qui avait poussé un cri si terrible que tout le personnel du château en avait été réveillé. Jamais reporter à l'interview ne s'était tant amusé. En somme, fit observer le petit Darbois d'Excelsior, dans ce château, tout le monde revient de chez les morts. C'était un endroit prédestiné pour l'opération du docteur Boutier. Mais vous, mademoiselle, avez-vous assisté à cette opération ? Non, monsieur, on m'a mise à la porte. J'ai eu à peine le temps d'apercevoir le corps de monsieur de la Bossière mort, mais je ne l'ai plus revu depuis qu'il revit. J'avais été remercié auparavant. Je ne faisais plus partie de la maison. Et pourquoi, monsieur ? Parce que justement ému des apparitions de monsieur André de la Bossière et de ses rendez-vous au bord de l'eau avec madame Saint-Firmin, J'avais prié les enfants de s'asseoir avec moi à une table d'acajou et de questionner eux-mêmes l'esprit de leur père sur les circonstances dans lesquelles le malheureux avait trouvé la mort. Madame Jacques de la Bossière, ayant appris la chose, n'a pas hésité à me traiter de vieille folle. « Oh, cette dame est vraiment inexcusable !» déclara le jeune Darbois d'Excelsior.
« Si elle est inexcusable, mais dites donc qu'elle est criminelle !» J'agissais en la circonstance non point poussée par une malfaisante curiosité, mais dans le désir ardent de servir la vérité.
Il est certain, continua-t-elle sur un ton qui n'admettait évidemment aucune réplique, que l'état de médiumnité dans lequel se trouve à n'en point douter Madame Saint-Firmin retient dans le pays, au château et dans les environs, comprenez-moi bien, messieurs, comprenez-moi bien, le père esprit du défunt. Qu'y a-t-il de plus naturel pour une croyante comme moi, car je suis croyante, je ne le cache pas, et disciple d'Alan Kardec depuis bien des années, qu'y a-t-il de plus naturel que j'ai essayé moi-même, avec l'aide des enfants du mort, de faire parler le mort qui naît autour de nous? On m'a chassé. Oh, j'ai su depuis ce qui s'était passé au château. J'ai lu le premier numéro de la médecine astrale. Je suis venu à la conférence du professeur Jaloux. Mais pourquoi ces messieurs n'ont-ils pas voulu m'entendre? Ce que j'avais à leur dire était pourtant bien simple. Puisque vous avez ramené de chez les morts Jacques de la Bossière, interrogez-le sur la mort de son frère. C'est votre premier devoir. Il a dû rencontrer son frère. Alors pourquoi nous cacherait-il ce que son frère lui a dit? Enfin, messieurs, nous ne pouvons plus en rester là. La justice doit se préoccuper à nouveau de l'affaire. Quelle enquête! Qu'elle interroge elle-même le ressuscité! Qu'elle interroge Madame de Saint-Firmin! Mon Dieu, on a bien vu des juges d'instruction interroger les somnambules. Ils ne s'en sont pas plus mal trouvés. Mademoiselle Hélier eut pu continuer longtemps sur ce ton, mais elle s'aperçut que personne ne l'écoutait plus. Les reporters étaient tous partis prendre le train pour Juvisy. Chapitre 24. Reprenons nos esprits. Quelle aubaine qu'une histoire pareille pour les reporters. Une vraie disparition, un crime possible, un château hanté, une dame qui a des visions, une opération abracadabrante, un enfant qui voit le fantôme de son père, un monsieur qui revient de chez les morts, une institutrice qui fait tourner des tables, le tout se passant dans un monde très chic, et enfin, pour conclusion momentanée, ce scandale à la conférence du professeur Jaloux. La bande joyeuse débarqua à Juvisy et se fit conduire dans des voitures au château de la Roseraie. Mais là, elle se heurta à des grilles fermées et à un concierge impitoyable. Madame de la Bossière avait déjà pris ses précautions, instruite et avertie par les premières indiscrétions des journaux de la localité et aussi par la curiosité déplacée de quelques promeneurs audacieux qui, le dimanche précédent, n'avaient pas craint de franchir les portes du parc dans l'espoir de rencontrer ou d'apercevoir à une fenêtre le monsieur qui revenait de chez les morts. Après avoir en vain essayé de faire parler le concierge, les reporters s'enfuirent vers le plus proche village dans le dessein d'interviewer les paysans, les fournisseurs, si possible. Ils désiraient aussi se faire indiquer la petite maison du bord de l'eau où habitait la femme du notaire qui avait des apparitions. Pas une seconde, il leur revenait à l'esprit qu'ils pourraient retourner à Paris bredouille. Quant au petit Darbois d'Excelsior, il quitta à l'anglaise l'Orphéon, comme il disait, c'est-à-dire la troupe bruyante de ses confrères, fit le tour du parc, sauta par-dessus un mur, se glissa derrière des haies, se jeta dans une douve pour éviter un jardinier, en sortit à la nuit tombante, poussa la porte basse de la tour Isabelle, circula au hasard dans quelques corridors et se trouva tout à coup dans une pièce en face de Madame Jacques de la Beaussière qui poussa un cri. « Ah, madame !» fit le petit Darbois en s'inclinant de la façon la plus galante. « Je vous jure que ce n'est pas moi le fantôme. Je ne suis que le petit Darbois d'Excelsior et je vous présente toutes mes excuses pour la désinvolture avec laquelle je viens vous proposer mes services. » Fanny le toisa les pieds à la tête, puis... J'avais dit à mes gens que je n'y étais point pour les journalistes, déclara-t-elle d'un ton sec. Elle se rendait compte qu'elle était maladroite, mais l'audace tranquille avec laquelle ce petit blanc-bec venait de forcer sa porte l'exaspérait. « Oh, comme vous avez eu raison, madame, » reprit l'autre sans se troubler. « Si vous n'aviez pris cette excellente précaution, nous aurions été là 50, qui n'aurions pu faire que de la mauvaise besogne, tandis que seuls tous les deux, nous allons pouvoir nous entendre sur les termes d'une interview qui remettra les choses au point et fera cesser, j'en suis sûr, ces bruits extravagants. » « De quel bruit extravagant parlez-vous, monsieur ? Je vous assure que je ne sais point ce que vous voulez dire et que je n'ai rien à vous dire. Madame, je sors de la conférence du professeur Jaloux, où il s'est dit, je vous assure, des choses absurdes et qu'il est dans votre intérêt de démentir avant qu'elle n'ait fait le tour de la presse mondiale. Cette affaire, madame Horace, si vous n'y prenez garde, a un retentissement immense. » Du coup, elle comprit que c'était sérieux et ne pensa plus qu'à tirer profit autant que possible de la démarche du reporter. « Ah, Jaloux a parlé. Oh, il m'avait promis de se taire, » s'écria-t-elle. « Ce monsieur est un paltoquet, un charlatan. Eh bien, moi aussi, monsieur, je parlerai. Asseyez-vous, monsieur, il faut que tout cela finisse. » « Madame, je suis un honnête homme, » fit entendre le petit Darbois. « Et la plus élémentaire honnêteté m'oblige à vous dire que si le professeur Jaloux, dans sa conférence d'aujourd'hui, a rapporté les événements extraordinaires qui se sont déroulés autour d'une opération chirurgicale tout à fait exceptionnelle, il n'a pas cependant prononcé un nom, pas un seul. Alors, comment êtes-vous ici ?» C'est qu'à cette conférence se trouvait une demoiselle ailier qui a fait du scandale, qui a été expulsée, ce dont elle a conçu une irritation assez naturelle, irritation qui lui a délié la langue. Madame de la Beaussière ne s'attendait pas à celle-là. Décidément, il lui fallait faire face à tous de tous les côtés à la fois. Elle ne se laissa point abattre, cependant, et prit les devants. « Oui, une domestique que j'ai remerciée. Et vous faites métier, monsieur, de recueillir de pareils propos ? Que vous a-t-elle dit ? Oh, racontez-moi tout, tout. » Le petit Darbois ne se le fit pas demander deux fois. Fanny l'écoutait avec la plus grande attention. Quand il eut fini, elle dit « C'est tout ?»« Oui, mon Dieu, oui. »« Eh bien, et Jaloux, qu'est-ce qu'il a dit dans sa conférence, cette grande bringue de Jaloux ?»« Oh, mon Dieu, madame, il nous a dit que le patient, aussitôt revenu de chez les morts, lui avait raconté avec force détail ce qui se passait par là-bas. » Et le docteur Moutier ?» « Oh, madame, il n'a rien dit, mais il y a l'article de la médecine astrale. »« Oui, je l'ai lu, merci. Et vous, monsieur l'intervieweur, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout cela ?»«
Madame, je suis justement ici pour vous poser la même question.
Sans doute, mais si vous écriviez à ma place, qu'est-ce que vous répondriez?
Le petit Darbois regarda sa nouvelle femme, irritée, et chercha poliment une phrase qui put lui faire plaisir.
Je crois bien que je me répondrai. Tout cela, c'est de la blague.
Vous avez trouvé le mot, monsieur. Tout cela, c'est de la blague. C'est de la blague de professeur, c'est de la blague de névropathe, c'est de la blague de vieille fille qui passe son temps à interroger les morts parce que les vivants ne lui ont jamais rien dit.
Mais savez-vous bien, monsieur, que tout de même, si on les écoutait trop longtemps, ils finiraient par nous rendre fous, ces gens-là.
Moi-même, il y a eu des moments où je me suis pris la tête à deux mains et où je me suis dit « Mais reprenons nos esprits, reprenons nos esprits. »
Oui, monsieur, je crois que si je n'avais pas gardé tout mon sang-froid, nous serions tous aujourd'hui à Bicêtre, ma parole. Heureusement, j'ai pris le dessus et j'ai chassé d'ici tous ceux qui parlaient du fantôme ou qui l'évoquaient ou qui y pensaient. Et du même coup, nous avons été débarrassés du fantôme. Il n'est plus apparu à personne, enfin du moins ici, et ça me suffit. J'ai fait maison nette, monsieur. J'ai fermé ma porte aux esprits malades. Et le fantôme nous fiche la paix. Et mon mari achève sa guérison dans le calme, soigné par un brave praticien de la campagne qui a l'esprit sain et qui lui raconte des histoires que pour le faire rire. La première fois que mon mari a prétendu devant lui qu'il avait été vraiment mort, ce brave homme a tellement ri, mais tellement ri, que mon mari a fini par rire avec lui, et que nous en étions tous malades de rire. Oui, monsieur, et la vision des morts dans la vallée, rapportée de son voyage chez les morts par mon mari. Ce fut le bouquet. Ce brave docteur s'est écrié, mais c'est pas possible. Vous n'avez pas inventé ça tout seul. Ça, c'est de la littéra commanditure. Vous avez vu ça quelque part. Et il a voulu voir la bibliothèque, le bureau. Il a cherché jusque dans la chambre occupée avant l'accident par mon mari. Et il a fini par découvrir une demi-douzaine d'ouvrages spirites où se trouvait justement précisé, dans un style aussi biblique qu'impressionnant, les lubies pseudo-scientifiques des jaloux, des moutiers, des crooks. Est-ce que je sais, moi? Oui, mon mari en était arrivé là, sous l'influence des discours extraordinaires du docteur Moutier, à se laisser influencer par des histoires pareilles, à les rechercher, à s'en nourrir en secret. Comment voulez-vous qu'à la sortie d'une opération pareille, en face d'un imbécile de savant qui abuse de sa faiblesse pour le faire parler, il ne lui sorte pas toutes les calembredaines qu'on a retrouvées imprimées au fond du tiroir de sa table de nuit? Mais c'est fini. Mon mari est guéri. Et du cœur, et du cerveau. Ah, reprenons nos esprits, monsieur. Reprenons nos esprits.
Chapitre 25. Fanny ne quitte plus le petit journaliste. Pendant que Madame de la Bossière parlait avec une conviction qui faisait plaisir à voir, le petit journaliste, entre deux notes jetées sur son calepin, admirait la bonne santé physique et morale de son hôtesse. Il souligna au stylo, femme de tête, lui sourit et lui dit « Madame, la cause est entendue, vous aurez tous les gens d'esprit avec vous, et les autres seront ridicules. Maintenant voulez-vous que nous laissions de côté toute cette fantasmagorie ?» Pour aborder la seule question sérieuse que soulèvent en somme les incidents de ces jours derniers, je veux parler de l'absence prolongée de M. André de la Bossière. Qu'en pensez-vous, madame?
Mon Dieu, monsieur, je pense qu'elle est tout à fait anormale et inquiétante, et mon mari l'a trouvée si inexplicable qu'il a été le premier à saisir la justice et à lui demander une enquête. Cette enquête, hélas, comme vous le savez, n'a rien donné, et nous attendons toujours qu'il se produise quelque fait nouveau, susceptible de nous éclairer sur une disparition qui nous a tous plongés ici dans un état d'esprit voisin du désespoir. Mon mari adorait son frère. Pensez-vous que M. André de la Bossière ait été assassiné? Tout est possible, n'est-ce pas, du moment que nous n'avons plus reçu de ces nouvelles. Je vais vous avouer, madame, la raison pour laquelle je vous pose des pareilles questions. Dans toute cette histoire abracadabrante de fantômes sortis de la bouche de l'honorable mademoiselle Hélier, je n'ai retenu que l'état de visionnaire dans lequel se trouvait une certaine madame Saint-Firmin. Il ne faut pas oublier, madame, que nous sommes à une époque où les juges d'instruction vont se renseigner auprès des somnambules. Voyez l'affaire Cadiou. C'est la somnambule qui a tout découvert. Certes, je ne crois pas aux fantômes, mais nous devons compter aujourd'hui avec la suggestion, avec l'état magnétique et somnambulique des témoins, et avec beaucoup de choses encore qui faisaient rire ou qui faisaient peur autrefois et qui font penser aujourd'hui. La justice ne répugne plus à chercher dans cet état de vision un puissant auxiliaire depuis que la science en a reconnu la réalité et étudié les surprenants phénomènes. Si Madame Saint-Firmin est sérieusement la visionnaire que l'on dit, on ne saurait négliger son témoignage. Et quant à moi, je ne manquerai pas, madame, en sortant d'ici, de l'aller interroger. Mais c'est fou, monsieur! Je vous demande pardon, je ne connais pas Madame Saint-Firmin. Et monsieur, fit Madame de la Boissière, en essayant de dominer l'irritation singulière où l'avaient jeté les dernières paroles de l'indiscret reporter, quand vous connaîtrez Madame Saint-Firmin, vous vous rendrez compte que ses propos n'ont pas plus d'importance que ceux de Mademoiselle Hélier. Ce sont deux toquets, ni plus ni moins. L'état de santé de Madame Saint-Firmin n'est plus précaire et il n'est point rare de l'entendre divaguer. Le docteur Moutier lui-même a ri des visions de Madame Saint-Firmin et en a établi l'inanité. Comme le disait Moutier, elle s'imagine voir la nuit ce que sa cervelle malade a conçu pendant le jour. Ne voit-elle pas, et c'est certainement la première chose qu'elle vous dira, ne voit-elle pas le cadavre de mon malheureux beau-frère dans une malle? Oh, très intéressant, interrompit le petit Darbois. Très fortes les somnambules pour les cadavres dans les malles. Et savez-vous pourquoi, monsieur? Tout simplement, parce que le docteur Moutier, qui a déposé lors de l'affaire Hérault Gabriel Bompard, a raconté 100 fois devant cette petite, Madame Saint-Firmin est restée presque une enfant, l'histoire de la malle de Gouffet. Madame, permettez-moi de vous dire que je ne saurais, sans avoir vu et entendu Madame Saint-Firmin, adopter d'aussi catégoriques conclusions. Car enfin, puisque vous parlez de la malle où l'on avait enfermé le cadavre du malheureux huissier, je ne puis oublier que c'est justement une somnambule qui a fait retrouver cette malle. Une authentique somnambule, Madame Offincher, dont mon ami Edmond Leroy, le rédacteur si sympathiquement connu du journal, nous racontait encore dernièrement l'histoire. Lors de la disparition de l'huissier Gouffet, qui faisait tant de bruit, un de nos confrères, se rappelant que cette Madame Offincher avait rendu d'illustres services dans certaines recherches célèbres d'objets et de cadavres cachés, elle a trouvé cette dame. Ici, le jeune reporter s'interrompit. « Mais je vous demande pardon, madame, je suis là à vous raconter des histoires, alors que notre temps à tous les deux est précieux. Je vous demanderai la permission de prendre congé. » Ce fut madame de la Bossière qui le retint.
Elle était devenue tout à coup extrêmement curieuse de savoir comment une somnambule, une visionnaire, avait pu mettre la justice sur les traces d'un cadavre. Autrefois, quand Moutier racontait ces choses, elle ne les écoutait même pas. Elle pria donc le reporter de continuer son histoire. « Ben, notre confrère, raconta le jeune Darbois en se rasseyant avec un sourire, s'était muni d'un gant et d'une cravate ayant appartenu à l'officier ministériel, et il donna les deux objets à Madame Offinger. Celle-ci, une fois magnétisée par son fils, vit que le disparu avait été attiré dans un piège, assassiné à Paris aux environs de la Madeleine, mis dans un coffre, transporté en province, dans les environs d'une grande ville de garnison, et que le corps serait retrouvé le 23 août. Ceci se passait le 12 août. Le lendemain, l'article de notre confrère paraissait, et bientôt, on retrouvait à Miry, près de Lyon, un cadavre dans une malle. Mais ce cadavre était décomposé au point que l'on était incertain de savoir si c'était bien celui de Gouffet. Là encore, l'intervention de Madame Faugère fut décisive. Madame Landry et Mademoiselle Gouffet, sa sœur et fille aînée de la victime, vinrent avec sa calotte trouver le somnambule. Celle-ci reconnut dans son sommeil avoir déjà été consultée pour cette recherche, puis elle déclara formellement que le cadavre de Millery était bien celui de l'huissier, donnant pour preuve que la troisième molaire de droite lui manquait et que l'on n'avait qu'à constater que la même molaire manquait au cadavre, ce qui, dans la suite, fut reconnu exact. Madame Offinger alla même plus loin dans ses investigations magnétiques, puisqu'elle ajouta, et bien avant que les journaux en parlassent, que Gouffet avait un léger défaut dans un œil, de plus une certaine raideur dans une jambe résultant d'une névrose antérieure et déterminant une sorte de claudication. Enfin, elle annonça que les coupables seraient arrêtés dans un des 3 mois qui suivraient la consultation et qu'ils étaient partis pour l'Amérique. « Et tout cela se vérifia, madame, » conclut le reporter en se levant. « Vous comprenez que si je pouvais réussir avec Madame Saint-Firmin ce que mon confrère a si bien réussi avec Madame Offinger, ce serait une bonne aubaine pour tout le monde. Pour vous, madame, qui sauriez enfin ce qu'est devenu votre beau-frère, et pour moi, qui rapporterais un excellent article à mon journal. Voilà, madame, il ne me reste plus qu'à vous remercier de l'aimable accueil. « Oh, monsieur, mais vous ne savez pas où habite Madame Saint-Firmin. Ben, je vais vous conduire chez elle moi-même. »« Oh, madame, je le sais vraiment. » Mais Madame de la Beaussière sonna, se fit apporter un manteau et un chapeau et sortit avec le jeune homme. « Oh, nous irons à pied, monsieur, c'est tout près. » Le reporter n'en revenait pas. Fanny, en dépit de l'émoi où la jetaient les démarches insolites de ce diable de journaliste, se rendit compte de l'étonnement de celui-ci. Elle pensa qu'il était dangereux de le laisser sous cette impression et dit aussitôt « Oh, vous comprenez, monsieur, que moi, je commence à en avoir assez de toutes ces histoires. Entre nous, je ne serais pas fâché de vous voir constater par vous-même que les imaginations de Madame Saint-Firmin ne sont pas plus sérieuses que les inventions de Mademoiselle Hélier. Quand vous l'aurez jugée telle qu'elle est, c'est-à-dire une pauvre malade qui divague, vous le direz, vous l'écrirez, et c'en sera fini, il faut l'espérer, des fantômes de la roseraie. Vous me parliez tout à l'heure des révélations d'une somnambule authentique. Libre à vous d'y croire, vous êtes jeune et impressionnable. Moi, je n'y crois pas. Mais Madame Saint-Firmin n'est pas une somnambule authentique. C'est une malade, je le répète, dont la tête est très faible et qui a de tristes cauchemars. Ah, ce petit reporter, si elle avait pu l'envoyer au diable avec tous les fantômes qu'il était venu interviewer, et elle l'accompagnait, elle se faisait son cicérone. C'est qu'elle était sûre qu'il serait pénétré chez Marthe comme il était entré chez elle, et Madame de la Bossière avait en vérité quelque intérêt à assister à l'entretien. Quoiqu'elle prétendît ne point croire aux révélations du somnambulisme, elle n'ignorait point qu'à cet égard elle avait tort d'être aussi affirmative. L'histoire de Madame Offinger l'avait fortement émue, et dans cet ordre d'idées, elle ne pouvait songer sans un frisson aux curieuses coïncidences des révélations et des visions de Madame Saint-Firmin. L'automobile, la malle. Quand ils arrivèrent à la petite maison du bord de l'eau, elle fut tout étonnée de trouver les fenêtres du salon illuminées, la porte de la villa ouverte et sur le seuil, la vieille servante qui se lamentait. Un peu plus loin, dans l'ombre, on apercevait les voitures. En reconnaissant Madame de la Bossière, la servante dit aussitôt « Oh, madame, vous n'avez pas rencontré monsieur? Oh, je voudrais bien qu'il rentre de l'étude, ils sont bien là, une vingtaine à tourmenter cette pauvre Madame Marthe. C'est des journalistes venus de Paris qui lui demandent des choses, des choses. » « Zut !» s'exclama le petit Darbois, « je suis brûlé. Les confrères, oh, surtout madame, ne dites pas qui vous êtes. » Car vous vous ferez tellement parler que vous ne vous y reconnaîtriez plus. Il y a longtemps qu'ils sont là. 10 minutes peut-être, je ne voulais pas les recevoir. Ils m'ont glissé sous le nez, il y en a un qui m'a embrassé. Quelle vermine! Fanny, en apprenant qu'une vingtaine de journalistes se trouvaient réunis autour de Marthe, fut aussi désespérée que le petit Darbois, mais pour d'autres raisons. Elle suivit le reporter qui entrait dans le salon carrément après avoir frappé 2 petits coups pour la forme. Ils trouvèrent les journalistes, les uns assis, les autres debout, qui prenaient des notes comme des écoliers autour de Marthe, laquelle, debout contre la cheminée, leur dictait d'une voix calme des phrases comme celle-ci. « Dites bien que lorsque Madame Hélier est venue chez moi, elle m'y a trouvé souffrante, très faible, et la tête tout endolorie encore, des méchants cauchemars qui depuis quelques mois m'ont poursuivi à la suite justement de ce triste état de ma santé. Si elle était venue me voir aujourd'hui, par exemple, elle m'aurait trouvé mieux, et tout à fait lucide, n'attachant aucune importance à de pauvres imaginations de mon cerveau, mais Mademoiselle Hélier, à qui j'ai eu tort de confier mes souffrances comme à une amie, si j'ose dire, plus malade que moi. Elle voit du surnaturel partout, et a donné à mes propos, peut-être sans s'en apercevoir, une forme qui pourrait surprendre. J'ai pu avoir des visions, ce qu'elle appelle des visions, ou encore des apparitions, mais croyez-moi, je ne les ai jamais considérées, quant à moi, que comme des rêves. « Ah, pardon, madame, interrompit le petit Darbois, mais est-ce que vous n'auriez pas dit que le cadavre de monsieur André de la Bossière était dans une malle ?» Marthe parut étonnée et un peu démontée par l'imprévu de cette question. Cependant, elle répondit presque aussitôt, « Oh, j'ai dit cela comme j'aurais pu dire autre chose. On venait de retrouver un cadavre dans une malle, les journaux en parlaient. » Le docteur Moutier nous avait parlé de la malle de Gouffet. Tout cela avait fait impression sur mon esprit. Je vous répète, monsieur, que ces choses n'ont aucune importance et que je suis la première à en rire. Voilà, messieurs, toute l'histoire de mes visions. Je n'ai plus rien à vous dire. Je suis un peu fatigué. Je vous demanderai maintenant la permission de me retirer. « Oh, pas avant que nous vous ayons remercié, madame !» commença d'exprimer galamment les journalistes. Mais un autre le tirait déjà par la manche. « Grouillons-nous, nous n'avons pas une minute à perdre si nous voulons prendre le train. » En un clin d'œil, le salon fut vide. Le petit Darbois lui-même s'échapperait après avoir pris hâtivement congé de Madame de la Beaussière. « Eh bien, lui jeta celle-ci, qu'est-ce que je vous avais dit? Cette pauvre Madame Saint-Firmin reconnaît elle-même. Oui, c'est bien dommage. »
Mais dans tout ceci, il n'y a qu'une folle. Mademoiselle est liée, dites-le.
Comptez sur moi. Et il se sauva, la laissant seule avec Madame Saint-Firmin. Fanny était pâle de joie. Chapitre 26. La joie de Fanny dure peu. Madame de la Beaussière s'avança, les mains tendues vers Madame Saint-Firmin. Mais ce geste fut inutile, car Madame Saint-Firmin ne le vit pas ou fit celle qui ne le voyait pas. Elle avait un regard extraordinairement mort et qui ne semblait refléter aucun des objets environnants. Mais dans quel domaine inconnu ce regard se promenait-il? Qui aurait pu le dire? Ah, la voilà encore partie pour l'extase, se dit Fanny. Heureusement que ça ne lui a pas pris devant les journalistes. Et moi qui allais la complimenter d'être redevenue si raisonnable. Elle s'assit, décidée à attendre patiemment que Madame Saint-Firmin voulût bien s'apercevoir de sa présence. Or, comme elle levait à nouveau les yeux sur Marthe, Fanny s'aperçut de la dureté extraordinaire du regard qui maintenant se fixait sur elle. Elle en reçut comme un choc, et cette sensation insupportable la fit même reculer sur sa chaise. « Mais pourquoi me regardez-vous ainsi ? » finit-elle par lui demander. L'autre ne répondit point tout d'abord, comme si cette question mettait du temps à lui parvenir. Enfin, ses lèvres remuèrent, et les quelques paroles qui s'en échappèrent firent se dresser dans un désarroi indescriptible Madame de la Beaussière. « Pourquoi je vous regarde ainsi ? Parce que c'est vous qui êtes la cause de tout. Parce que c'est pour vous qu'il a été tué. André m'a tout dit il y a 6 jours, lors de sa dernière visite. Il ne veut pas que je continue à soupçonner plus longtemps mon mari. Jacques de la Beaussière est né du sang de Caïn, mais c'est vous qui avez armé sa main. Allez, mais allez-vous-en donc. Oh, surtout qu'il n'arrive rien aux enfants. J'ai vu mademoiselle Hélier. » À ce nom, Fanny retrouva son souffle. C'est elle qui vous a suggéré toutes ces horreurs. Elle veut se venger de ce que je l'ai chassé. Oh, Marthe, ma petite Marthe, reprenez vos sens, rappelez vos esprits. Est-ce bien vous qui nous parlez ainsi, vous qui avez trouvé auprès de nous des amis, ma petite Marthe, de vrais amis? Songez donc à ce qui arriverait si l'on vous entendait répéter de pareilles abominations, mais c'est épouvantable. » Et Fanny s'écroula sur un meuble, la figure dans les mains, comme en proie au désespoir le plus sincère et le plus touchant à la vérité. Cependant, Madame Saint-Firmin n'en parut point autrement émue. Elle s'en fut vers Fanny, avec cette allure de spectre qui ne la quittait plus, ce glissement qui la déplaçait comme si elle ne pesait rien à la terre, et elle lui posa sa main diaphane sur l'épaule. « Calmez-vous, lui dit-elle, personne ne saura rien de ces choses. Je n'ai rien dit de tout cela, mademoiselle Hélier, et elle n'en saura rien. Seulement, il faut la rappeler auprès des enfants, c'est la volonté du mort. Vous avez vu avec quelle prudence j'ai parlé aux journalistes. Le mort ne veut pas que l'on sache, à cause des enfants. » André nous fera connaître bientôt ses dernières volontés, car il a assez souffert, même depuis sa mort. Il va bientôt être délivré de la terre où son fantôme était resté enchaîné. Et moi, alors je ne le verrai plus, ici-bas du moins. Madame, allez-vous-en. Je vous ferai savoir ce qu'il m'aura dit. Je l'attends cette nuit. Songez que je ne l'ai pas vu depuis 6 jours. Et certainement, s'il apprend que vous êtes là, il ne viendra pas. Fanny la regardait. Ah, si elle avait osé, comme elle aurait noué ses mains crispées autour de ce cou fragile. Elle n'aurait pas eu beaucoup à appuyer. Le dernier souffle s'en serait échappé. Un pauvre soupir et tout était fini. Et jamais plus cette petite bouche pâle n'aurait laissé passer les paroles terribles. Ah, c'est qu'elles avaient dû se monter encore, leurs pauvres têtes, Mademoiselle Hélier et elle. Ce qu'elles avaient imaginé. Et comme Fanny aurait ri de tout cela si justement, ce qu'elles avaient imaginé n'avait pas été vrai. Madame de la Beaussière tamponna ses belles paupières meurtries de son fin mouchoir de batiste. « Ma pauvre Marthe, vous me faites de la peine, une peine. Vous voilà plus malade que jamais. Je reviendrai vous voir demain. »« Non, c'est inutile. Je ne veux pas que vous veniez. Je ne veux plus vous voir, à moins que ce ne soit absolument nécessaire et que le mort me l'ordonne. » Du reste, je sens que vous me détestez. Et moi, je vous hais, ce qui n'est guère chrétien, mais je ne puis pas oublier, n'est-ce pas, que Jacques a tué André à cause de vous. Ne le niez pas, il me l'a dit. Vous vouliez devenir châtelaine de la Roseraie. Mais c'est vous qui vouliez le devenir, éclata Fanny, et c'est parce que vous ne l'êtes pas que vous êtes devenue folle. Elle se retourna pour juger de l'effet produit par sa sortie, mais elle se trouva en face d'une figure lointaine aux yeux sans regard extérieur. « André, c'est bien que je n'ai jamais pensé qu'à lui, » disait cette voix de rêve. Et en vérité, disant cela, elle semblait voir André, et encore la voix revêtit un accent d'une douceur et en même temps d'une douleur infime, pour ajouter cette phrase qui tomba sur Fanny comme la foudre. « Oh, madame, mais pourquoi l'a-t-il tué au rond-point de la Fresnaye ?»
Chapitre 27 Sur la limite. Jacques, après avoir glissé son fusil tout chargé par la porte entrebâillée du placard, referma celui-ci à clé et mit la clé dans sa poche. De cette façon, il était à peu près sûr qu'on ne viendrait pas lui voler son fusil, et il savait où le prendre si par hasard il en avait besoin. Au surplus, depuis quelque temps, il fermait autant que possible les portes derrière lui, et ses poches étaient pleines de clés. C'était plus prudent, pensait-il, dans l'état d'esprit où il se trouvait, et cela l'aidait à ne point se laisser envahir par la peur dès que le soir survenait. Il se tenait sur ses gardes, c'est-à-dire qu'il avait averti ses sens de ne point s'émouvoir à propos d'une chaise qui tombe ou d'un rideau qui remue. Les soins et les raisonnements terre à terre de ce brave praticien de Juvisy lui avaient fait grand bien, et s'il n'était pas encore tout à fait persuadé qu'il n'avait pas été mort, du moins il tendait à croire qu'en effet son cas n'avait pas été aussi exceptionnel que l'avaient prétendu Jaloux et Moutier, et qu'il se pouvait fort bien qu'il fût simplement revenu des limites de la vie avec le souvenir d'un vilain cauchemar. Cependant, il est toujours bon de prendre ses précautions, et puisqu'il avait retrouvé l'équilibre de ses facultés, il en profitait pour ne rien négliger de ce qui pouvait lui rendre la sérénité de l'âme qui lui faisait encore défaut. Par exemple, il se gardait, dans le cas où les fantômes qu'il avait si bien vus dans l'état de mort lui apparaîtraient de nouveau dans la vie, pour lui prouver qu'ils n'étaient point de vaines images. Et surtout, il avait réussi à se garder contre un fantôme, celui qui le tragassait par-dessus tout. Ah, celui-là, il y pensait sans cesse, même quand il ne le sentait pas en train de rôder autour de lui. Mais il l'avait attrapé bien, ma foi oui, il l'avait bien attrapé. Un soir, c'était, mon Dieu,
il y avait 6 jours de cela. C'était la première fois qu'il se levait depuis le terrible accident. Le docteur de Juvisy avait déclaré que tout allait pour le mieux et que Jacques pouvait maintenant compter vivre jusqu'à 100 ans. 100 ans de vie, il avait dit cela sérieusement, le docteur. Mais il avait mis à cela une condition, c'est que Jacques chasserait les fantômes de son cerveau, sans quoi les fantômes le reprendraient et l'entraîneraient d'une façon définitive, cette fois dans la mort, dans la vraie mort où l'on ne revient jamais. Aussi Jacques avait-il promis d'être bien sage et ne plus se faire d'idées. Donc, ce soir-là, il y avait 6 jours de cela, on l'avait roulé dans un fauteuil, car il se sentait encore bien faible, jusque dans la petite pièce qui servait de penderie à Fanny. Et l'on ne s'était plus occupé de lui, car on procédait hâtivement au nettoyage de la chambre. Cette pièce était justement celle qu'il fallait traverser pour aller chez les enfants, et c'était dans cette pièce-là que s'était passé l'accident. C'était dans le tiroir de la table qu'il avait cherché le revolver le soir de l'accident où son cerveau avait été si singulièrement troublé par certains bruits de chaîne. En revoyant la pièce, en revoyant la table, Jacques naturellement s'était rappelé ce qu'il s'était imaginé au moment de l'accident. Le fantôme se dressant tout à coup devant lui avec le revolver et tirant sur lui. Mais pourquoi s'était-il imaginé cela alors que l'événement s'expliquait si simplement par l'accident? Pourquoi toujours faire intervenir ce fantôme? Eh par Dieu, se mit-il à penser, parce qu'il l'avait vu, de ses yeux vu. Une hallucination, peut-être. Certes, il était trop raisonnable maintenant qu'il recevait les soins de ce brave médecin de Juvisy, pour faire de la peine à celui-ci et ne point admettre qu'il avait été victime, en effet, d'une hallucination. Mais tout de même, encore une fois, ces hallucinations étaient aussi terribles que la réalité. Et puisque ces hallucinations vous tuaient par-dessus le marché, Jacques s'était demandé ce que de vrais fantômes pourraient faire de plus. Or, dans le moment qu'il s'était demandé cela, il avait senti que le fantôme était revenu. Certes, il n'y avait pas à se tromper, le fantôme était derrière lui, presque penché sur son fauteuil. Jacques en apercevant la forme blême et floue dans la glace. Mais le fantôme s'imaginait évidemment que Jacques, qui n'avait pas fait un mouvement, ne le voyait pas. C'était bien André, avec son insupportable blessure à la tempe. Oh, dans un autre temps, comme Jacques aurait bondi, quel tapage il aurait fait. Mais, instruit par l'expérience, ayant recouvré l'équilibre de ses facultés, il avait appris à mater sa peur et à se raisonner. Ce fantôme n'était après tout peut-être qu'une hallucination. Voilà ce qu'il ne fallait pas oublier. Et c'est bien cette pensée si raisonnable qui donnait à Jacques la force de regarder le fantôme sans en avoir l'air et de ruser avec lui. Car Jacques était bien décidé cette fois à s'en débarrasser. Fantôme ou hallucination, il allait tout simplement tenter de l'enfermer à jamais entre ses 4 murs. André, toujours appuyé sur le dossier du fauteuil, ne bougeait pas, et Jacques ne remuait pas plus que lui. Jacques faisait semblant de lire un journal qui était sur ses genoux. Une simple bougie sur la table éclairait doucement cette scène muette. Et Jacques calculait que derrière le fantôme, la porte conduisant à la chambre que l'on était en train de nettoyer était fermée. La clé était restée dans la serrure, mais de l'autre côté, du côté de la chambre, son premier soin, une fois dehors, serait donc d'aller donner un double tour à cette clé-là. Ce qu'il fallait, c'était sortir si vite par la porte conduisant à l'appartement des enfants, que le fantôme, surpris, n'eut point le temps de faire un mouvement. S'il prenait bien son élan, en deux bonds, Jacques pouvait être dehors, par cette porte restée ouverte. Une fois passé, il la rabattait sur le nez du fantôme. Et comment? Et le père esprit d'André resterait enfermé pour toujours, et ne viendrait plus le tourmenter jamais. Tant pis pour la penderie, ce serait désormais une pièce condamnée, et tant pis aussi pour les robes de Fanny, elle s'en commanderait d'autres. Tout bien pesé, Jacques pensa que l'entreprise serait facile. Il ne fallait point manquer de force, voilà tout. Alors, dans le moment que le fantôme le croyait quasi endormi sur son journal, Jacques faisait celui qui fermait les yeux. Il bondit et fut dehors en une seconde, et clac, la porte fut refermée. Un tour de clé, Jacques se sentit alors prodigieusement léger. Il avait des ailes. Il s'était élancé dans le corridor, il était revenu dans la chambre, avait couru à la porte de la penderie et avait donné les deux tours de clé. Cette fois, ça y était bien. Le fantôme était bien pincé, bien attrapé. Il n'en sortirait plus. Cependant, les domestiques avaient entouré Jacques, qui leur riait joyeusement. Fanny était arrivée, avait renvoyé les importuns, et Jacques lui avait, en quelques phrases claires et enthousiastes, expliqué tout. Mais, à vrai dire, Fanny était réellement trop sérieuse pour son âge. Fanny n'avait pas ri, bien qu'il eût pris la précaution de lui dire « J'en suis débarrassé, fantôme ou hallucination !» Tout de même, Fanny lui avait promis de ne plus ouvrir jamais ces deux portes, moyennant quoi il lui avait promis, lui, de ne plus avoir cette hallucination-là. Et il avait tenu sa parole. Depuis 6 jours, Jacques n'avait plus rien vu d'extraordinaire. Il paraissait être devenu un homme raisonnable et tranquille comme tous les hommes, tranquille dans la tranquille vie. Ce qui ne l'empêchait pas, sans le dire à Fanny, de prendre encore des précautions, car il ne fallait pas se dissimuler que le fantôme devait être enragé là-dedans et qu'il imaginerait 1000 tours pour en sortir. Quand Jacques ne se sentait pas surveillé, il allait coller son oreille contre la porte de la penderie et entendait distinctement le fantôme qui tournait là-dedans comme un toton. Tantôt il se heurtait au vide de la fenêtre avec un bruit de mouche emprisonnée, et tantôt il remet sa chaîne avec acharnement. Tous ces bruits-là, du reste, déplaisaient fort à Jacques. Il eût préféré que le fantôme prisonnier prît sa captivité en patience. Enfin, bientôt Jacques ne l'entendrait plus. Il était en effet convenu avec Fanny que l'on allait réaliser ces fameux projets de voyage qui leur feraient tout oublier. Italie, Italie, harmonie, harmonie, azur, Santa Lucia, où est l'indicateur des chemins de fer? Fort de savoir son fusil à 2 pas de lui, son fusil chargé, Jacques ne craint pas de pénétrer tout seul ce soir dans la chambre de Fanny pour chercher l'indicateur. Ah, le voici sur la commode. Train de luxe, oh, si on passait par Venise. L'automne, très bonne saison pour voir Venise. Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui l'appelle? Et il se retourne haletant vers la porte fermée de la penderie. Une voix, il a entendu une voix sourde qui appelait « Jacques! Jacques !» La voix maintenant s'est tue, mais Jacques perçoit distinctement du frôlement contre la porte. Alors il perd toute mesure, il en a assez, il faut en finir avec ce fantôme. Ce fantôme enfermé dans la penderie fait vraiment trop de bruit avec sa chaîne. Jacques va chercher son fusil, puis bravement, héroïquement, ayant tiré de sa poche un de ses lourds trousseaux de clés qui ne le quitte plus, il introduit l'une de ses clés dans la serrure de la penderie et d'un coup ouvre la porte bravement, héroïquement. Ah ! Si le fantôme est là, il va le foudroyer, c'est sûr. Il se rue dans la pièce, le doigt sur la gâchette de son fusil. Pas de fantôme. Non, il n'y a pas de fantôme dans cette petite chambre, dont son regard fait le tour. S'il y avait eu un fantôme, il l'aurait aperçu immédiatement, parce que cette petite chambre n'est éclairée que par la lumière venue de la grande. Il raye là une pénombre dans laquelle les fantômes, quand il y en a, se détachent avec une parfaite netteté, et chacun sait du reste que les fantômes sont bien plus visibles dans l'obscurité que dans la lumière. Cependant, une minute auparavant, le fantôme d'André était là. Il l'a entendu remuer, il l'a entendu parler. Mais où est-il passé? Qu'est-il devenu? Par où s'est-il enfui? Ah, là-bas, la fenêtre remue. La fenêtre est entr'ouverte. Le fantôme vient d'ouvrir la fenêtre, de se sauver par la fenêtre, en laissant derrière lui, dans l'air qui soulève le rideau, le bruit léger de sa chaîne. Jacques se précipite sur cette fenêtre pour la refermer derrière le fantôme. Mais la fenêtre résiste à son effort, parce que du volet abattu par le vent, une chaînette qui sert à l'ordinaire à retenir le volet contre la muraille pend sur la pierre de la croisée et promène çà et là son tintinabulant cliquetis d'acier. Alors, Jacques éclate de rire, d'un rire énorme, colossal, d'un rire qui secoue de dessus sa poitrine le poids formidable de tous les fantômes de la terre. Il rit, jusqu'au moment où il aperçoit sur la table de la petite pièce une simple bougie coiffée de son petit casque d'argent. Cette bougie était celle qui éclairait Jacques 6 jours auparavant, lorsque celui-ci lisait, ou plutôt faisait semblant de lire son journal. Le journal est encore par terre. Personne ne l'a ramassé. Mais la bougie, elle, la bougie qui brûlait lorsque Jacques a bondi vers la porte et a refermé la porte il y a 6 jours, mais qui donc l'a éteinte et qui donc l'a coiffée de son petit casque d'argent ?